10h, dans le bureau de Parjupiter.
Ouh là là, les amis, mais vous êtes beaucoup trop paisibles, là.
Ouais, on cherche des renseignements sur le site de l'Éducation nationale.
Pourquoi faire? Aller chanter Vive le Veau avec Blanquer?
Non, mais en regardant le documentaire sur Bambi, on a vu qu'elle est passée d'artiste de cabaret à professeur.
Ouais, ça nous a filé une idée.
Pour après, pour quand on sera plus artiste de cabaret.
Voilà.
Mais vous êtes pas artiste de cabaret, vous?
Je suis quand même comédienne.
Moi, je joue au Café de la Gare. Hein.
Et puis Bambi, elle a démarré au Carrousel, je mets la marture, et puis hop, le Capes.
Le Capes, mais c'est quelle boîte, ça?
Non mais vous pouvez pas devenir prof enfin. Vous êtes des enfants.
Rappelle-moi le nom de la prof qu'on reçoit. Bambi. Donc
oui.
Bon.
Et puis moi je suis pas une enfant. Hein. Je lis plein de gros livres et écrit en tout petit en plus.
Non, mais des mots, moi je vous dis. Non mais Guillaume, tu t'imagines prof vraiment?
Bah et comment? Oui.
Et qu'est-ce que tu vas leur apprendre toi, tes élèves, à se mettre en grève dès qu'ils ont une mauvaise note?
Et pourquoi pas?
Allez, moi je vous conseille d'arrêter de vous faire des illusions. La meilleure façon d'y arriver, vous savez ce que c'est?
Bah non, c'est quoi?
Mais c'est de bosser. Oh, Juliette, mais pourquoi tu pleures?
Qu'est-ce qu'on va devenir après quand on sera plus des artistes de cabaret?
Mais vous n'êtes pas des artistes de cabaret!
Mais j'en ai marre, à la fin on peut pas être prof, on n'est pas artistes de cabaret non plus, mais qu'est-ce qu'on est alors?
Bon, écoute Juliette, les problèmes liés à l'identité, on en parlera pendant l'émission, t'auras qu'à bien écouter.
Okay? Mais où est donc Ornicard? Oh. Ok, bon, ça je m'en rappelle, ça c'est bien déjà.
Laisse tomber Guillaume, ça sert à rien, je t'ai dit. France Inter et bienvenue à la manufacture de la blague, dont voici la devise, souvent femme varie, mais pas autant que le virus. Voici le sommaire, Juliette.
La Cour des comptes, c'est-à-dire la juridiction financière, c'est-à-dire ceux qui évaluent le pognon de dingue dépensé, vient de faire savoir qu'en dépit des réformes, le système éducatif français a des performances médiocres. Et qui c'est qui va prendre? Oh, j'ai bien ma petite idée.
Et au premier geste de résistance, je vous fais muter en Guyane. Vous irez au lycée en pirogue.
De plus en plus de jeunes remettent en cause la frontière entre les sexes. Un quart des 18-30 ans ne se sent ni homme ni femme. L'interrogation sur le genre est en pleine expansion. Toute une génération fait sa révolution intime.
Liberté, égalité, sexualité, liberté, égalité, sexualité.
La bataille culturelle a pour terrain de prédilection la langue française, puisque le langage, c'est politique. Chacune de ces évolutions fait craindre à certains un déclin de la France dans le pays. Comme dans sa langue, il y a des règles.
La grammaire, c'est comme le reste. Ça rouille si on s'en sert pas.
Et à mes côtés aujourd'hui, vous l'avez entendu, c'est Juliette Arnaud.
Oui, Charline, et en l'honneur de notre invité, une équipe qui sort tout droit d'un dessin animé, avec d'abord celui qui, comme Balou, est grand, paisible, son sens de l'humour ne se départit jamais d'un sourire. Je rêve de le voir s'adresser aux autres bêtes de la jungle, en commençant par « Hey les gars, c'est incroyable !» Jamil Le Schlag, bonjour.
Bonjour.
De quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui, Jamil?
De masques et de crack.
Ah, j'allais vous dire, c'est à la mode, pas tant que ça, pas tant que
pas
ça.
Mal, c'est pas mal.
Ensuite, à l'instar de Pompon, celui de Bambi, qui frappe sur le sol pour alerter ses congénères d'un danger, lui arpente les rues, il recueille la vox populi pour nous prévenir que tout le monde n'est pas islamo-gaucho-fémino-vegan. Genre, on savait pas. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Juliette, bonjour à tout le monde. Ben moi, je voulais finir l'année en beauté, et qui dit beauté, dit Edith, bien évidemment, pour faire le bilan. Bon, on va parler de tout, de rien, de Laetitia Hallyday.
Ah, c'est une salope, elle est épousée pour son fric.
Voilà, dans une bonne ambiance, je voulais finir.
Enfin, comme Dumbo, elle croit à la magie. Comme lui, elle vole sans fumée et sans alcool. Mieux encore, ses traversées dans les mots et la littérature nous aident à décoller, nous. Isabelle Sorand, bonjour.
Oh, bonjour Juliette. Aujourd'hui, les amis, je vais vous faire une éloge du flou.
Et voici celle qui nous accompagne jusqu'à 18h. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs que vous êtes
Bambi, yes. C'est-à-dire Marie-Pierre Pruvot.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi, ça va beaucoup vous gêner, mais on est très émus et ravis, honorés que vous soyez là avec nous. Bambi, votre nom de scène lorsque vous étiez meneuse de revue dans le cabaret de travestis appelé Le Carrousel dans les années 50-60. Et le réalisateur Sébastien Lifshitz vous a consacré un court-métrage documentaire en 2013. Mais ce court-métrage était beaucoup trop étroit pour raconter votre vie, c'est-à-dire l'enfance en Algérie française, le cabaret à Paris, votre transition, car vous incarnez aujourd'hui la mémoire de ce qu'a été la vie des premières personnes transgenres en France, et puis la reprise de vos études, les lettres modernes, et 25 ans d'enseignement dans un collège de banlieue à Garges-lès-Gonesse. Alors une version longue est désormais disponible de ce film, Bambi, une nouvelle femme. Il est disponible là en DVD, Blu-ray, VOD et toujours sur MyCanal. Et je vous conseille chaleureusement d'aller le voir, vous allez comprendre. D'abord, Marie-Pierre Pruvot, Bambi, à quel moment de votre vie êtes-vous devenue cette nouvelle femme? Ce qui allonge le titre aujourd'hui de ce documentaire.
Vous voulez dire à quel moment je l'ai réalisé, peut-être?
Peut-être, oui.
Parce qu'en tout cas, pas en Algérie. Il a fallu que je rentre chez Madame Arthur pour commencer à vivre habillée déjà en femme, donc à 18 ans. C'est là que j'ai commencé. Mais dans mes rêves et dans mes aspirations, je n'ai pas de souvenir d'avoir pensé autrement. Donc, ça a commencé déjà dans ma petite enfance, où je détestais mon prénom, simplement parce que c'était un prénom masculin. Et voilà, je me suis beaucoup regardée dans le miroir et je me suis beaucoup imaginée autrement que ce que j'étais parce que je refusais cette réalité-là qui n'était pas la mienne. Les deux réalités ne correspondaient pas, voilà, je me suis travaillée comme ça jusqu'à 18 ans. À 18 ans, je suis partie.
Et le cabaret vous a beaucoup aidé pour ça, que vous avez rencontré comme coccinelle qui est
le cabaret
célèbre,
m'a permis, tout simplement, le cabaret m'a permis de vivre pendant un temps, parce que vous savez, à l'époque, il était exclu de trouver un travail, quel que soit le travail qu'on soit capable de faire, ou si vous aviez un physique qui correspondait pas à votre état civil, c'était inacceptable.
Oui, il faut rappeler quand même qu'à l'époque, la police était en droit d'arrêter n'importe quel homme qui se déguisait en femme. C'était strictement interdit.
Oui, et une femme avec un pantalon et avec une braguette, par exemple, n'avait pas le droit. D'ailleurs, on portait très peu de pantalons à cette époque-là. Une femme qui sortait en pantalon. Moi, les premiers temps que j'étais à Paris, je sortais en pantalon. On se faisait remarquer. Les gens se retournaient sur le pantalon. aux années 50. Ouais, au début des années 50.
La bascule a
Parce que ça a très vite évolué. Très vite.
Fin des années 60. Pourquoi ces 30 minutes supplémentaires? Nous, on sait pourquoi. C'est parce que le premier documentaire a été un tel succès et a tellement plu aux gens que Sébastien Lipschitz a décidé qu'il pouvait rajouter 30 minutes. Mm-hmm. C'est quoi ces 30 minutes? Elles correspondent à quoi?
Ces 30 minutes correspondent à montrer une image de ma vie, par exemple, en montrant un peu plus, en montrant Coccinelle en scène. On l'avait trop peu vu en scène, et surtout sur la scène du Carrousel, tel qu'il était à l'époque où j'ai débuté. Et on me montre, moi, un petit peu plus intime, c'est-à-dire quand je parle d'Outa, je parle d'elle d'une manière un petit peu plus intime, avec les problèmes que ça m'a posé. Et aussi, quand j'arrive au cimetière, à Borges-Ménayel, où il me montrait déjà au cimetière, mais il me montrait pas si recueilli et si perturbé
oui,
par
revoir
la tombe de mon père et de ma sœur, etc. Voilà. Donc tout ça, ça a été montré. Puis je fais quelques petites réflexions supplémentaires sur ma vie en général, sur la légèreté de ma vie qui n'était que artificielle en quelque sorte, parce que ça n'est pas parce qu'on se montre légère que on n'est pas profond. Donc en réalité, on peut être les deux à la fois, une chose masquant l'autre aux yeux des autres, mais pas vis-à-vis de soi-même.
Alors, vous avez filmé votre quotidien en Super 8 pendant 30 ans.
Il y a
des images de vous en Super 8
oui,
de
mais
votre
pas
vie,
pendant 30 ans.
Pas pendant 30 pas, ans. Ah,
non, pas pendant 30 ans. Non. J'ai eu une petite caméra. Les caméras personnelles commençaient à sortir, pas en France où elles coûtaient extrêmement cher, mais une année que j'étais en tournée à Vienne. Un camarade de travail me dit, mais fais comme moi, achète-toi une petite caméra, regarde comme c'est bien, puis il y a l'appareil pour projeter le film. Oui. Alors j'ai acheté ça s'appelait 8, Les Super 8 sont venus plus tard. Alors j'ai acheté cette petite caméra et nous nous amusions à filmer un petit peu dans nos voyages et aussi dans la loge surtout. Ça nous amusait beaucoup de filmer. Il y avait une loge où il y avait tous les artistes du carrousel étaient là, sauf les artistes qui étaient en tournée. Et on s'amusait, enfin je m'amusais à filmer et c'était un grand plaisir pour nous, après, de passer ces films. Parce que, naturellement, quand on était filmé, une tirait la langue, l'autre faisait des grimaces, faisait des bêtises. Il fallait faire des bêtises pour amuser les autres. Alors, je filmais ça. Et puis, voilà, c'est ça. Et puis, une fois, j'ai filmé aussi. Et on le voit bien, cette fois-ci. On était à Biarritz. Et je ne sais pas si les camarades s'ennuyaient dans la journée ou quelque chose comme ça. Ils me disaient, on va faire on va faire un pique-nique. Alors, on est allé sur une plage, on a pris deux autobus, on est descendu, on est parti avec des valises à maquillage, et ils étaient en garçon, naturellement, et on est arrivé sur la plage, et on avait apporté du poulet froid, des choses comme ça, c'est ce qui, au soleil, c'était un peu repoussant dans le sable. Et il a fallu, alors, ils se sont maquillés d'une manière un peu ridicule, et on s'est amusé, j'ai filmé ces petites choses pendant quelques minutes, oui, mais enfin, deux, trois minutes.
Oui, mais ça,
ouais, c'est des bêtises comme ça.
Ce que vous avez filmé, ça laisse aujourd'hui un témoignage des loges du cabaret,
de l'époque, etc.
Des gens très joyeux, très jeunes.
Ouais, ouais, qui enrichit très beaucoup ce documentaire, donc ce film.
Je me doutais pas du tout que ça pouvait avoir de l'importance. C'est Sébastien qui m'a dit que c'était important. Et il m'a demandé de les laisser à la cinémathèque.
Ah oui. Tellement eu raison.
Voilà.
Sébastien Lipschitz, donc, il réalise ce film version longue, Bambi, une femme nouvelle. On vous le recommande chaleureusement. C'est une version inédite du film qui était sorti en 2013, hein, c'est ça, hein, voilà, avec 30 minutes de plus. Been spending most of their lives living in a pastime paradise. Been spending most of their lives living in a pastime paradise. Been wasting most of their time glorifying days long gone behind. Been wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgraced. Tell me who are they? Dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, a grace relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future. Pastime Paradise. Paradise, Stevie Wonder sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter en compagnie de la classe, l'élégance, l'intelligence et l'espièglerie de Bambi. Marie-Pierre Pruvot est en notre compagnie, ancienne meneuse de revue au cabaret Le Carrousel notamment, et puis 25 ans d'enseignement. Nous contemple dans ce studio. Et pour l'entourer, Juliette.
Des artistes de cabaret également, Isabelle Sorand, Jamil Schlag, et puis un journaliste politique de haute volée.
La preuve.
Pour les Français qui disposent de faux passes, je veux que nous puissions travailler un dispositif qui permettrait un système de repenti et qui abandonne poursuite. À nouveau, c'est faire preuve d'humanité.
Le journal de presque 17h17.
Ne t'inquiète pas pour cette histoire. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera d'Éric Zemmour.
Ok, donc on regardera le film Moi, moche et méchant.
On parlera aussi de Vincent Bolloré.
Ah, donc on regardera le film Moi, méchant et méchant.
Et enfin, on parlera aussi de l'allocution, de l'interview plutôt, ouais, d'Emmanuel Macron.
Ouais, on regardera donc le film Moi, moi et moi. Voilà. Et on commence par la politique.
Oui, hier soir sur TF1, le président de la République a reconnu qu'il avait pu blesser...
Oui, avec les flashballs,
non, bien sûr. Non.
Ah oui, avec les grenades de désencerclement, les mains arrachées, tout ça, il a blessé.
Non, blessé avec des petites phrases, il a dit.
Ah, des petites phrases. Dans les yeux, vous voulez dire? Dans les mains, enfin, je veux dire, ça a explosé.
Ça, il n'a pas précisé.
D'accord.
En tout cas, les écologistes sont très remontés contre Emmanuel Macron, car il n'a absolument pas parlé hier soir d'écologie.
Oui, alors là, sa crédibilité est définitivement morte, quoi. C'est, ouais.
Mais si ça se trouve, elle est compostable, sa crédibilité.
Ah, bah, du coup, il est écolo.
Oh, bah, c'est bon.
Ah, bah, il est écolo. Allez, bah, ça y est. Et, bah, voilà.
Et ce matin, Éric Zemmour était l'invité de la matinale de France Inter.
Oui, alors c'était très, très, très intéressant. On écoute tout de suite un extrait de ses propos.
T'es sûr?
Ah, bah, il y a dû avoir une. Ah, c'est dommage! C'est dommage!
Bon,
bah,
non, c'est une version en régie, je pense. Sur le service public!
C'est bête parce que je voulais vraiment écouter Zemmour. Bon, bah, c'est pas grave.
Elisabeth Borne l'a annoncé, le gouvernement n'accordera pas de coup de pouce au SMIG.
Quoi? Le gouvernement ne va pas aider les pauvres? Qu'est-ce que vous me racontez là, Charline?
Cher,
c'est complètement
Père
exceptionnel.
Noël, Père Noël, est-ce que tu pourrais offrir à Guillaume des cours de théâtre pour l'année prochaine? Ce serait très très gentil, merci.
Comment vous... Bon, allez, enchaînons avec une information technologique.
Oui, Adidas lance une collection NFT pour s'affirmer dans le métavers.
Voilà, alors rappelez-nous, Charline, qu'est-ce qu'une collection NFT pour s'affirmer dans le métavers?
C'est une collection de... C'est des baskets?
Voilà, alors cher Père Noël, est-ce que vous pouvez offrir à Charline des cours sur les nouvelles technologies pour l'année prochaine?
On enchaîne avec Nadine Morano qui a déclaré hier.
Non, Charline, bah non.
Ah bah si, Nadine Morano.
Non.
Mais si.
Mais non, on est en 2021, on parle pas d'Nadine Morano. Non.
Bon bah d'accord alors.
Bah c'est non. Voilà.
Selon Reporters sans frontières, 488 journalistes sont actuellement retenus dans le monde.
489.
Ah bon? Mais oui. Qui est le 489e?
Il y a De Vecchio dans le 79 qui est retenu.
Non mais j'ai dit journaliste.
Ah journaliste, pardon. Bah ouais, voilà. On reste sur le bon chiffre.
Média maintenant, Vincent Bolloré a attaqué en justice un journaliste qui dénonçait ses méthodes envers les journalistes.
Ça, c'est le théorème Bolloré. Si t'es journaliste, que tu travailles sur Bolloré et qu'il porte pas plainte contre toi, c'est que t'as mal fait ton job. Voilà, ça se vérifie à chaque fois.
Sport maintenant, dans une longue interview à Paris Match, Kylian Mbappé a déclaré « C'est l'expérience de vie qui compte plus que de brasser de l'argent ».
Oui, oui. Et ça, les SDF le disent et le redisent. C'est pas l'argent qui compte, c'est les expériences de vie.
Et c'est marrant, ils ont toujours une petite pancarte comme ça. Une expérience de vie, s'il vous plaît.
C'est vrai. Continuons avec le sport. Donc
oui,
toujours.
L'Union Européenne est partagée sur un boycott diplomatique des JO.
Alors là, oui. Et je tiens féliciter la Belgique, vraiment là pour son courage, pour le coup, Charline.
Pourquoi?
Ah, bah ça fait 40 ans que vous boycottez toutes les médailles aux JO, et là, moi je dis félicitations. Allez, non, mais c'est vrai, c'est courageux.
Dernière information, oui. Je souffle dans mon masque. Selon une étude, 0,7% des émissions de gaz à effet de serre seraient dues à l'alcool.
Voilà, ben donc j'ai calculé, l'équipe de Par Jupiter s'engage à replanter 4 millions d'arbres pour compenser tout ça. On s'excuse, bien évidemment.
Merci ou pas merci, Guillaume Meurice.
Voilà.
En compagnie de Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi, Juliette, ce premier thème à lui soumettre.
La Cour des comptes a bien vu les réformes, la Cour des comptes a bien noté les moyens mis sur la table. Pour autant, la Cour des comptes a statué, le système éducatif français tend à faire moins bien, surtout en ce qui concerne les élèves issus de milieux défavorisés. Pour pallier cette contre-performance, la Cour des comptes propose de nouvelles pistes. Sauf que, pardon, il s'agit d'un vieux problème, non?
Tu leur demandes de dessiner un train. Au bout de minutes, ça rate pas. Zelle, il faut que je dessine tous les wagons. Oui, mon petit, tu dessines tous les wagons avec la fumée, tout, la locomotive, tout. Hein, tu penses que tu vas être tranquille, quoi. Parle. Tu, y en a un qui démarre, il y a tous les autres qui enchaînent. Tu. Si t'es une vache qui dessine.
Meumeux.
Garde chiant, parce qu'on n'est rien d'autre. Hein. Non, mais on nivelle par le bas. Sacrifie les meilleurs. Comme ça, tout le monde est content. Quand je vois les trois quarts de ma classe crever d'ennui pendant toute la journée, on dirait qu'ils sont aux galères, tu vois. Je me demande qui a bien pu décréter que l'école devait être obligatoire, hein. 4 ans de lycée technique pour finir chômeur.
On leur apprend tout petit à être pauvre, hein, pour qu'ils s'habituent.
C'était un extrait du film Le maître d'école de Claude Berry avec Josiane Balasko et Coluche, qui dit donc cette dernière phrase. On leur apprend tout petit à être pauvre pour qu'ils s'habituent, 1980, je rappelle, en 25 ans. Marie-Pierre, vous avez formé combien d'élèves à devenir pauvres?
Je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'il ait eu besoin de les former parce qu'ils l'étaient déjà. Hein, Garges-lès-Gonesse, on n'est en général pas très riche.
Et est-ce que vous aviez, on le sait, la situation à Garges-lès-Gonesse, ça ne devait pas l'être quand vous étiez prof, mais ça ne l'est pas plus depuis, ce n'est pas exactement Byzance. Vous n'avez pourtant pas demandé de mutation, vous avez tenu à rester là.
Ah ben oui, parce que je m'y suis attachée. Les premiers temps que je suis arrivée à Garges-lès-Gonesse, d'abord je suis arrivée terrorisée à Garges-lès-Gonesse, parce que j'arrivais de Cherbourg, ma première nomination a été à Cherbourg. Et je suis restée 2 ans, et j'ai demandé tout poste dans la région parisienne, bien sûr on m'a donné Garges-lès-Gonesse. Et Garges-lès-Gonesse me faisait très peur, parce que dans un journal qui s'appelait Le Monde de l'éducation, il y avait eu un grand article avec un titre qui prenait les 2 pages, Être collégien à Garges-lès-Gonesse. Et on disait les pires choses sur Garges-lès-Gonesse, que l'échec scolaire, les difficultés d'enseigner, etc. Et j'étais terrorisée. Si bien que, vous savez, quand on est fonctionnaire, on a des points. Et il faut avoir un certain nombre de points pour demander sa mutation. Les premières années, j'ai demandé, pendant 5-6 ans, j'ai demandé ma mutation, tout en sachant que je ne l'aurais pas. Puis j'ai eu une inspection qui m'a fait monter ma note. Et je commençais à avoir un petit peu de temps là à Garges-lès-Gonesse. J'ai eu les points pour changer. J'ai plus demandé. Je me suis trouvé bien. Oui. J'avais des collègues avec qui je m'entendais très bien. Je commençais à connaître les familles. C'est très important de connaître les familles. Il y a beaucoup de familles nombreuses à Garges-lès-Gonesse. Je sais que j'ai inspiré confiance à beaucoup de ces familles-là. Avec qui j'avais un excellent contact, et j'ai voulu rester là jusqu'à 65 ans. J'étais très contente d'y être.
La Cour des comptes relève qu'il faudrait relever l'autonomie des chefs d'établissement qui ont aujourd'hui, je les cite, peu de moyens pour exprimer la reconnaissance par l'institution scolaire à un enseignant. Vous, comme enseignante, vous avez eu les palmes académiques. Est-ce que c'était une reconnaissance importante ou suffisante ?
Oh, moi, personnellement, je me plains pas. Je m'occupe beaucoup moins des enseignants que des conditions d'enseignement, des conditions, par exemple, de l'autorité des profs, à qui on enlève toute autorité. Moi, j'ai un petit peu forcé les choses pour m'imposer, parce que je voulais pas j'ai pris modèle sur mes anciens enseignants que j'avais en Algérie. Donc, j'étais assez stricte, et je contrôlais le travail, et je voulais que le travail soit fait. J'ai beaucoup compté sur la rigueur, la présentation d'une feuille, etc. Parce qu'autrement, les élèves font n'importe quoi si on les laisse faire. Même ceux qui travaillent bien finissent par mal travailler si on ne s'occupe pas, si on ne les valorise pas. Donc voilà ce qui est important. Quant à la liberté des chefs d'établissement, je vois pas comment ils pourraient choisir eux-mêmes leurs enseignants. Vous comprenez, c'est pas possible, c'est pas à eux de le faire. Je ne crois pas qu'ils acceptent cette liberté-là, non. Mais...
Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi, voilà, un élève, on ne sait plus quoi en faire, je vais vous laisser juger par vous-même, c'est Jamil Le Schlag.
Hé les gars, c'est incroyable, le masque à la radio, ça commencerait pas à casser les couilles. Bah chier, il y a le respect du protocole sanitaire. Mais mettez-vous à ma place. J'ai l'impression de jouer bâillonné. Le gars, c'est incroyable. Bah non, bordel, c'est pas ça la vie. C'est comme si je faisais une partie de jambes en l'air en slow bar. Les gestes barrières sont respectés, certes, mais en termes de sensas, c'est pas le futuroscope. Non, mais c'est relou ces histoires. Alors j'ai pris une décision. Vous êtes prêts ?
Oui.
Je vais faire un geste d'une subversion sans précédent. Ça va, France Inter? Oula, je remets le masque. Je remets le masque. Non, mais je dis ça, je rigole. Je respecte le port du masque. C'est pas le cas de tout le monde. L'autre jour, j'étais sur la ligne 5, plus communément appelée la crack line. Ah bah, passé 23h30, c'est plus un métro, c'est une salle de shoot. Que des toxicos. Ça va, Douli? C'est vrai que le masque, ils en ont rien à secouer. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans la street. Moi, je te parle des anciens, des pionniers du crack à Paris, canal historique. Ils ont survécu à la lèpre, au typhus, au skinhead. Alors le Covid, ça les fait doucement rigoler. Non, mais la ligne 5, après 23h, mais faut voir ça au moins une fois dans sa vie. Mais c'est la nuit des morts vivants, la colline a des yeux. Voilà, le clip de Thriller, You Got a Thriller. Tac, tac. Oula, bah, je suis nul en Corée. Ça va, Mia Fry, bordel. Donne des news. L'autre soir, il y a un type qui est rentré dans la rame, édenté, torse nu, yeux rouges, le neveu du chétan. Il nous a fait une entrée fracassante. Il a regardé tout le monde comme ça. Il a crié « Hé, hé, hé !» Moi, je nique Édouard Balladur. Mais il avait clairement pas peur d'afficher ses convictions politiques. Il a enchaîné sur un freestyle. Yé, yeah, yé. Yeah. On dit quoi, Charles Passe? Quoi? La double peine. Ça foutrait pas la haine? Apparemment, il est resté bloqué dans les années 90, le man. Et moi, j'ai remarqué un truc. À chaque fois qu'il y a un crackman qui rentre dans la rame, il choisit un complice. Et ce complice, c'est toujours moi. Et moi, je suis là, tu sais, je m'enfonce dans le siège. Charlie vient pas me parler. Et là, ça a pas loupé. Hein. Il arrive vers moi avec une odeur de bicarbonate de soude. Ah, ça va, mon frère? Je suis pas votre frère, d'accord? J'en ai déjà 6, ok? Et là, vite ma mère, c'est vrai ce que je raconte. Et là, il s'approche. Il me dévisage. Et je sens qu'il me reconnaît. Hey, tu serais pas Jamy de Le Schlag par hasard? Ah, la fierté des noms. Tu nous représentes bien, nous, les Schlag. Et évidemment, il me tend la main pour me check. Alors là, moi, je lui dis, oula, on va respecter les gestes barrières. Je lui ai tendu du gel hydroalcoolique. Et lui, il a bu le gel.
Non. Bon,
apparemment, il n'avait pas compris le concept. Du coup, il m'attrape la main. Et au contact de sa paume, mes défenses immunitaires se sont effondrées. Comme la bourse en 1929. Jeudi noir, crack boursier, crack tout court. Ça va toujours, Douli? Merci de m'avoir écouté. Merci.
C'était donc Jamil Le Schlag en représentation tous les soirs à partir de 23h sur la ligne 5 du métro parisien. Et on poursuit l'émission en compagnie d'Étienne Dao qui chante Virus X sur France Inter.
Jeune flamme orageuse, solitaire, héroïque, disperse dans l'océan. Ces poèmes organiques, l'azur fou de tes yeux, m'a lancé un défi, et je lèche le sang de cruels ennemis. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Virus ex, virus ex. Ton cœur bat la chamade, zigzag les yeux bandés. J'échappe à l'embuscade, le plus sûr des réflexes serait de vite fait tracer. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Virus X, virus X. Nul besoin de de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Du haut de Saint-Vincent, les gargouilles nous surveillent. Virus Saint-Malo, rose pâle, virus se déplie, se réveille.
Vous écoutez France Inter, si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de Marie-Pierre Pruvot alias Bambi. Vous étiez meneuse de revue au cabaret de travestis Le Carrousel ou chez Madame Arthur en tant que Bambi. Et puis on l'a dit, enseignante en collège à Garges-lès-Gonesse, où vous aviez un peu une peur bleue qu'on vous reconnaisse en tant que meneuse de revue.
Oui.
Et depuis le documentaire, le film de Sébastien Lifshitz, est-ce que vous avez des anciens élèves, puisque vous témoignez de votre vie, qui vous ont reconnu et qui se sont dit « Ah, mais c'est ma prof !»
Non, beaucoup d'élèves m'ont reconnu, oui. Je suis entrée en contact avec beaucoup d'entre eux, oui. Plus de 100.
Depuis ce documentaire, et que vous disent-ils ?
Oh, peut-être même un peu avant. Sur une émission de France Inter, justement.
Ah,
il y avait, il y avait Chris Graffiti qui faisait une émission qui m'avait interviewée. Portrait sensible, ça s'appelait.
Ouais.
Et il y a des élèves qui m'ont reconnu.
Ah, d'accord.
En écoutant France Inter.
Ouais.
Donc, ils n'ont pas entré en contact avec moi à cette époque-là.
Ouais.
Ils sont entrés en contact qu'un peu plus tard. J'ai commencé à en voir. La première que j'ai vue vraiment, c'est un jour où j'étais remontée en scène, figurez-vous. J'étais remontée en scène, donc... Avant de tourner le film avec Sébastien, je suis au cabaret Le Tango. Le patron, qui est un ancien enseignant, lui, m'avait dit « Oh, remonte en scène une fois, etc. Tu vas faire une ou deux chansons. » Et il a fait tout un spectacle pour moi. Et je suis montée en scène. Et j'avais une ancienne élève qui était là, qui m'a dit « Oh, madame
!» Eh ben voilà. Voilà, et donc le film de Sébastien Lifshitz s'intitule Bambi, une femme nouvelle. Voilà, il est disponible, bien sûr. Guillaume Meurice, quoi de neuf aujourd'hui ?
Eh ben, j'ai regardé Macron hier soir à la télé.
Ouais.
Et ben, dis donc, ça valait bien le coup de demander à Pornhub de fermer, si c'est pour diffuser un plan à 3 en prime time. C'était indécent. Alors, je dis, pour me remettre, je vais écouter la matinale ce matin. Paf ! Plan à 3 avec Zemmour. Ah ben, j'étais pas bien. Plan à 3 SM en plus ce matin. Parce que t'as vite quand même un mec qui dit que partout, s'il était élu, il virerait tout le monde, il privatiserait tout. Donc c'est comme si t'invites Nordal Lelandais à l'ONU. Ouais, c'est un petit peu compliqué, mais sur un geste technique. Donc comme c'est ma dernière chronique de l'année, je voulais un petit peu prendre du recul et de la distance. Et où est-ce qu'on a vraiment du recul et de la distance ? À Marrakech. Hein, ça, on le sait. Jamil, il le sait bien.
Bien sûr.
Les gars, Marrakech, c'est incroyable. Ouais, j'aime bien t'imiter. Donc, j'ai appelé quelqu'un à Marrakech que vous connaissez bien et dont vous me demandez souvent des nouvelles. C'est Edith. Et évidemment, Edith, ça faisait longtemps, l'esthéticienne à la retraite, qui avait son cabinet à deux pas de la maison de la radio. Et on a besoin de l'avis d'Edith, on a besoin de son avis, notamment sur les vaccins, parce qu'elle est vaccinée, Edith.
Et moi, je ne ferai pas la troisième dose, on n'est pas question.
Pourquoi pas la troisième dose ?
Pas la troisième dose, on n'est pas question. Ici, plein, j'ai parlé des taxis, plein de gens, ils font pas la troisième dose, c'est dangereux. C'est très dangereux.
Mais il n'y a pas d'études qui montrent que la troisième dose est dangereuse.
Ben, si, il y a des professeurs, t'as qu'à regarder dans les réseaux, on est tous sur les réseaux. Il y a des grands pontes de la médecine, des professeurs qui ont dit qu'il fallait arrêter, qu'il y aura beaucoup de morts, ça va être une hécatombe dans 2 ans, 3 ans.
Juste avec la troisième dose ?
Oui, enfin, avec les vaccins, parce que ça sert à rien, les vaccins.
Et bam ! Prends ça dans ta gueule, pasteur ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Ben rien, t'es mort. Les vaccins, ça sert à rien. Voilà, donc attention à l'hécatombe, comme on dit sur les réseaux, vous avez entendu. Petite astuce pour lutter contre le vaccin.
On sait, il y a un truc qui marche, il faut acheter j'avais un tube heureusement de argile verte, aussitôt que tu es vacciné, tu passes l'argile, ils ont arrêté sur les réseaux parce que c'est quelqu'un qui l'a dit, tu passes l'argile verte sur ton bras où il est peut-être piqué, ça sèche, et là où c'est humide, c'est où il y a le vaccin, et après ça bouffe le vaccin.
Ah ben c'est un peu con non, de bouffer le vaccin.
Ça retire le poison.
Et hop là, petite astuce vue sur les réseaux de l'argile verte pour lutter contre le vaccin. Alors sinon il y aura une autre astuce que j'ai lue aussi sur les réseaux. Si vous êtes anti-vax, vous pouvez avaler du desktop. Voilà, ça éliminerait le vaccin. Alors, je mets au conditionnel, mais ça avait l'air sérieux comme étude. C'était un poste de Conspi 666, donc c'était quand même un peu béton. Parce qu'il va y avoir des morts à cause du vaccin. Ça,
on parle pas, il y a bien 30 000 morts. Moi en France il y en a. Et il y en a en Israël, en Allemagne, partout.
30 000 morts en France. Du vaccin, ça se saurait quand même, non ?
Ils ne parlent pas, ils font clôturer. Tous ceux qui parlent, regarde les Américains, ils coupent tout. Sur les réseaux, on ne peut même plus rien dire. C'est dégueulasse.
30 000 morts du vaccin en France. Alors, c'est l'équivalent d'une ville comme Vierzon, il y a longtemps. Alors, Juliette me disait, bah oui, mais qui regretterait Vierzon? Juliette, je vous rappelle que vous venez de Saint-Etienne. Donc, c'est vraiment l'URSS qui se moque de la Roumanie de Ceaușescu. Bon. Mais ne parlons pas de sujets qui fâchent, parce que ça fout une tension. C'est la dernière chronique de l'année. Parlons de ce qui rassemble. Parlons musique. Parlons de Johnny. Parlons Laetitia.
Bien sûr, alors là, elle s'est fait huer. Elle emmène son saloperie de Jalil. Hein, il a fait cocu, cette connasse. Elle a pas de seins, elle a pas de fesses, elle est affreuse.
Bon, alors, ne parlons pas de Laetitia. Je passe un petit bonjour à ceux qui vont réveillonner avec Edith. Ah, comme ça, vous savez un petit peu les sujets à éviter. Ou à ne pas éviter, si vous voulez vraiment des bagarres de couteau à huîtres et puis de la bûche au plafond. Alors, parlons Zemmour. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je voulais pas spécialement en parler, parce qu'on en parle déjà beaucoup. J'avais déjà parlé en début de chronique. Mais bon, Edith, c'est une sentimentale. Elle a regardé le clip, alors bon.
Eh ben, c'était génial. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais tout le monde dit que c'était bien fait, hein. T'as vu, c'était émouvant. C'était drôlement bien foutu, sa vidéo. Il a une de ses auras. T'as pas vu un peu les gens? Ben ici, son bouquin, Pernic, il a sorti La France, elle n'est pas foutue, je sais pas quoi. Là.
Voilà, c'est une belle idée cadeau de Noël, le livre La France, elle n'est pas foutue, je sais pas quoi. Donc, paraît-il, il a écrit la suite qui s'appellerait De toute façon, la France, ça part trop en couille, nanani, nanana. Et le dernier tome de la trilogie qui s'appellera Arrêtez de me comparer à un nazi, sinon je vous déporte. On a hâte. D'ailleurs, puisqu'on parle Zemmour, parle d'immigration, parce que Edith est clairement exilée, comme tous les Français au Maroc, en fait.
Oui, ben on est immigré, mais immigré parce qu'on est volontaire, parce qu'on n'en peut plus de la France, moi, tu sais pourquoi? Et toujours, je ne suis pas la seule, j'ai parlé avec beaucoup de Français, on ne reconnaît plus notre pays. Moi, je suis né en France, j'ai connu la France de Gaulle, j'ai connu la France Giscard, et ben c'était mieux quand même la France, hein. Et le 16e, c'était un beau quartier. Et t'as pas remarqué qu'il n'y a plus de riches?
Ah oui, il n'y a plus de riches. Ça, on a bien remarqué, il n'y a plus de riches. Alors, qu'est-ce qu'un riche? Après, ça, c'est difficile. Bayrou, il a dit 4000 euros, c'est la classe moyenne. Donc Bayrou, il lâche des billets de 50 euros au clochard en disant « Tiens mon brave, t'iras te payer un café ». Voilà, donc tout ça est très relatif. Mais d'où lui vient cette vision de la France, à Edith? Parce qu'elle habite plus là, donc comment elle sait tout ça? Est-ce qu'elle regarderait pas toujours Pascal Praud?
Ah oui, toujours, j'aime bien mon Pascal Praud. Je suis fan. Ah, je l'aime beaucoup parce qu'il est, il balance, il reproche tout ce qui serait pour l'extrême droite, c'est pas vrai. Tout le monde regarde maintenant, moi je ne regarde plus BFM TV, je regarde CNews. Parce qu'il est drôlement bien, ses émissions sont très très bien. Ah, ce journaliste, je l'adore.
Bien sûr qu'on l'adore, on l'adore, et on adore tous les journalistes qui interrogent Zemmour, Macron et compagnie. Ils sont très utiles pour les fêtes parce que ce sont de très bons passe-plats, figurez-vous. Petite astuce. Allez, bisous à toutes et à tous, bonne fin d'année, les amis.
Merci Guillaume Meurice, qu'on retrouvera dès le 3 janvier à la rentrée.
Inch'Allah.
Et dans, bien sûr, et dans comme les florilèges de Noël. Oui. Vous serez là tous les jours, en fait.
Ah oui, c'est vrai.
Restez avec nous. Nous sommes en compagnie de Bambi, Marie-Pierre Pruvot. On va aborder cet autre thème. Les 18-30 ans révolutionnent l'identité sexuelle. Ils veulent sortir de l'organisation binaire homme-femme pour entrer dans une autre organisation, en fait, par catégorie pansexuelle, gender fluide ou polygenre. Cette génération est née après l'adoption du PACS et a connu, enfant ou adolescent, la bataille du mariage pour tous, d'où l'évolution.
On est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. On est bien dans ces bras-là. On est bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. On est bien dans ces bras-là.
C'est Bambi. En 1958, votre tube au cabaret, qu'on est bien. Je me suis dit, alors, là, il y a un peu d'espièglerie, j'ai l'impression, Marie-Pierre.
C'est-à-dire qu'il y a une incompréhension totale de la chanson. C'est le patron. Le patron était intelligent, mais il n'avait aucune instruction. Il savait à peine lire, quoi, déchiffrer une lettre. Mais il n'avait pas compris ce que ça voulait dire du sexe opposé. Alors, pour lui, on était des homosexuels, là, dans déguisés en femmes. Alors, il me convoque. Je l'aimais beaucoup, hein, il avait quitté l'Algérie, lui aussi, à 17 ans, et il s'était propulsé en France comme il avait pu, et il m'avait en sympathie. Il me dit, tu as entendu cette chanson, qu'on est bien là? J'ai dit, oui, jamais j'aurais osé penser, je prenais ça pour une provocation. Oui. Il me dit, mais c'est fait pour le carrousel. Il pensait qu'on est bien dans les bras d'une personne opposée à ce qu'on devrait aimer, voilà, dans sa tête, comment il avait traduit tout ça. Et alors, je dis, bon, je chantais. Ben, il dit, tu prendras un partenaire. Et non, en effet, il y avait un partenaire qui faisait l'amoureux à côté de moi pendant que je chantais ça.
Mais oui, alors, quel regard vous portez sur cette jeune génération qui refuse cette organisation binaire de la société et qui se dit, voilà, je me sens pas forcément homme ou femme, j'ai envie de, si je tombe amoureux d'un homme ou d'une femme, peu importe, c'est la personnalité qui m'intéresse, etc.
Ben, quel regard je porte ? Un regard étonné. Parce que c'est exactement le contraire de ce que je pensais, moi, étant enfant. Étant enfant, j'avais pas de doute, en réalité. J'avais des preuves de contraire, mais j'avais pas de doute sur ma féminité. Je n'étais pas un garçon, j'étais une fille. Et aujourd'hui, non, au contraire, l'affirmation sexuelle est absente. Oui. On n'est plus ni l'un ni l'autre.
Et d'ailleurs, vous racontez dans le film de Sébastien Lifshitz que vous avez des relations avec des hommes, et puis un jour, vous rencontrez Ute, qui est une magnifique blonde suédoise, et vous dites, on trouve comme un côté un peu bourgeois chez vous, parce qu'il y a une interrogation de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on se rencontre finalement deux femmes ?
Oui, c'est sûr, et puis dans mon esprit, jamais, j'admirais beaucoup des femmes que je trouvais très belles. C'est l'époque de Bardot, etc. Dieu sait si elle était belle. Et toutes les stars américaines et beaucoup de stars françaises qui étaient très belles aussi. Mais enfin, jamais j'ai éprouvé le moindre frisson, j'allais dire, auprès d'une femme. Et puis, il y a eu Uta. Et Uta a été sensible à moi. Elle est venue souvent. Je me souviens, elle a appris que j'aimais les dragées. Elle mettait des dragées dans mon tiroir de loge, des choses comme ça. Et peu à peu, on s'est habitué à se voir. Le patron a demandé mais faites un numéro ensemble, etc. On a fait un numéro ensemble. Et puis on est parti. Alors, les sentiments sont devenus de plus en plus forts entre elle et moi. Mais naturellement, ça ne pouvait pas aller plus loin, parce que j'en ai parlé encore récemment, et j'en ai parlé dans justement, c'est des choses qui ont été rajoutées dans le nouveau...
Dans la version longue du film.
Dans la version longue, oui.
Vous confiez un peu.
Eh bien, je pensais, elle va me découvrir. Quelles que soient les apparences, au fond de moi, dans mon corps, n'est pas fait comme le sien à l'intérieur, et je me disais, mais comment je vais réagir et comment elle va réagir, comment si le fiasco sera affreux, et ça va couper tous les sentiments qu'on a l'une pour l'autre. Et puis non, voyez-vous, en tournée en Italie, on n'a rien fait en France, mais on était en tournée en Italie, on avait une chambre pour deux, un lit pour deux, ça a été miraculeux, mais voilà.
Et une
voilà.
Longue histoire.
Non, voilà. Oui, à intermittence, d'une certaine façon, parce qu'on a quand même vécu notre vie aussi, chacune de nos côtés. mais voyez-vous, au soir de la vie, on s'est retrouvés, on se voit tous les jours. Voilà.
Bambi avec nous et Isabelle Sorrente qui est parmi nous aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, je n'avais pas envie, Charline, de parler d'un livre parce que l'histoire de Bambi m'a hypnotisée, donc je n'avais pas envie d'en évoquer une autre.
Oh, chouette.
Et je vais simplement vous partager une petite réflexion qui m'est venue au sujet de la précision infaillible des logiciels, des algorithmes. Une précision dont on nous dit souvent qu'elle garantirait une sorte de justice aux êtres désordonnés que nous sommes, empêtrés dans une subjectivité excessive, dans leurs hésitations, dans leur genre non binaire, bref, dans le flou. Le flou est-il forcément néfaste ? Telle est la question du jour et nous avons 3 minutes. Alors, premier exemple archi-connu, j'ai honte de le donner, on pourrait dire que le fait de remplacer des êtres humains par des machines dans les bureaux de poste, dans les aéroports, aux caisses de supermarchés, à l'accueil des cliniques, nous garantit une réponse précise que de pauvres humains ne pourraient pas nous donner. Le remplacement des êtres humains par des machines est censé chasser le flou. Sauf que si vous ignorez, par exemple, ça m'est arrivé il y a 3 jours, le numéro de la chambre où se trouve l'ami dont vous voulez prendre des nouvelles et qui vient justement d'être transféré dans cette clinique en urgence. Si vous ne dites pas le bon numéro d'une voix atone à la machine, vous allez devoir attendre très longtemps, voire réitérer votre appel plusieurs fois avant de tomber sur un opérateur, hein, puisque les opérateurs, c'est comme ça aujourd'hui qu'on appelle les êtres humains, hein, et ils ont été réduits au minimum pour assurer des gains de productivité. Moins de flou, oui, mais plus d'angoisse, donc. Alors, autre situation où le flou disparaît, c'est lorsque vous regardez l'heure. Je suis née au XXe siècle, hein, j'ai honte de l'avouer, j'ai donc le souvenir d'un monde où quand on arrivait en retard, on pouvait dire que c'était la faute de notre montre qui retardait. Ou bien la faute de la montre de l'autre qui, elle, forcément, Juliette, avançait. On vérifiait régulièrement que les montres étaient bien réglées. Alors, ce flou n'existe plus, hein, sauf si votre PC racheté d'occasion donne l'heure de Taïwan, comme le mien. Nous marchons tous à la même cadence désormais. Eh bien, je suis désolée, Guillaume, vous allez encore dire que je suis anti-technologie, mais cette exactitude généralisée a quelque chose de subtilement totalitaire à mes yeux. Plus de retard, plus d'avance, plus d'excuses, comme dirait une horrible pub du Club Med Gym. Plus d'excuses pour ne pas avoir une précision d'automate. Autre exemple, le découvert bancaire. Les pénalités sont désormais calculées et facturées à l'instant même où le solde négatif est constaté. Fini les négociations avec le banquier, ce qui suppose encore que vous ayez accès à un banquier humain. Hein, ce qui ne va pas forcément de soi, Juliette, vous en savez comme moi quelque chose. Mais ces négociations, me direz-vous, ces négociations que tu regrettes étaient terriblement injustes parce que finalement, ceux qui avaient le plus de talent pour plaider leur cause, pour attendrir leur banquier, pour lui paraître sympathique, eh bien ceux-là profitaient d'une zone de flou et d'avantages dont les autres ne profitaient pas. J'ai envie de dire oui. Et alors ? Et est-ce que se servir de sa subjectivité est une faute ? Est-ce que négocier n'est pas profondément humain ? Est-ce que la négociation ne fait pas partie de la vie, de la tension presque érotique de tout rapport humain, y compris des rapports amoureux, amicaux ? Est-ce qu'il n'y a pas de la négociation dans toute relation ? Est-ce que la justice se confond avec l'interdiction de négocier et la standardisation? Eh bien, pas sûr, hein, pas sûr du tout. L'injustice, c'est seulement déplacée. Il y a ceux qui devront se contenter des FAQ, hein, les Frequently Asked Questions, et ceux qui auront les moyens de payer des conseillers humains pour gérer leur patrimoine. Il y a ceux qui subissent les algorithmes et ceux qui les conçoivent en y intégrant tous leurs biais cognitifs qu'on connaît, hein, et qui ne sont pas toujours glorieux. La subjectivité est en train de devenir eh bien, le privilège de quelques-uns. Alors ne rentrez pas dans ce jeu, choisissez la touche qui dit que vous ne rentrez dans aucune case. Le langage binaire est un langage sans métaphore. Ce sera l'objet d'une autre chronique, ce serait trop long. Et un langage sans métaphore, eh bien, ce n'est pas un langage humain. Voilà, choisissez le flou.
Oui, merci Isabelle Sorrente pour cette chronique. Justement, on va parler de langue française, Marie-Pierre Pruvot, parce que c'est l'un des c'est l'un de vos sujets de prédilection. Et je pense que on vous a proposé d'amener un sujet d'actualité ou de société, et vous nous avez dit l'état de la langue française en réalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je sais que vous avez écrit des ouvrages à ce sujet.
J'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre où je suis l'opinion globale du journal Le Monde sur la langue française, de sa création en 1944 jusqu'à grosso modo l'élection de Sarkozy.
Oui.
Et j'ai vu qu'il y avait une transformation énorme du point de vue de soutien de la langue française de la part du journal Le Monde. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple, à la fin du septennat de M. Giscard d'Estaing, il n'a pas été tendre avec le français, Giscard d'Estaing. Et il n'a fait aucun effort. Mais vers la fin, quand il a senti les élections pour le renouvellement, qu'il n'a jamais eu arrivé, il a fait un effort justement sur la langue française. Et le journal Le Monde a titré « La langue française, enfin ». Et il y avait tout un article où on disait que vraiment, il est mieux vaut tard que jamais, enfin il s'y met, etc. C'était extrêmement important à cette époque. Or, de cette époque-là à maintenant, on sent que M. Minc a pris le dessus et que c'est comme ça, on ne voit que par l'anglais. Et, et je me souviens, il y avait des conversations, il y avait eu un article qui disait comme ce serait facile de faire l'Europe si tout le monde parlait anglais. Et il y avait une levée de boucliers en disant « Mais pourquoi tant de facilité à l'anglais? Toutes les langues méritent d'être parlées dans leur pays, etc. » Et apprise. Tandis qu'aujourd'hui, non, pas du tout. On est revenu à l'anglais unique, langue unique, comme il y a monnaie unique, etc.
la défense de la langue française. Donc, et Juliette Arnoux, vous avez un petit questionnaire à soumettre à notre invité.
Sur l'échelle de la reconversion la plus acrobatique, zéro étant Laurent Romeshko qui fait des chiffres et des lettres depuis toujours, et 10 tout en haut étant Marlène Schiappa qui passe de ministre à influenceuse lissage, à combien vous vous situez?
Je ne sais pas du tout. C'est très difficile de se donner une note à soi-même.
Restez dans le flou.
Vous avez... On reste dans le flou. Moi, je vous aurais mis au minimum 14. Avec quel artiste, mort ou vivant, peu importe, vous aimeriez faire un Marseille-Alger en bateau?
Oh... Je ne sais pas quoi vous répondre, parce qu'en réalité, je fais, dans ce voyage que j'ai fait, Marseille-Alger en bateau, j'ai tout fait pour être le plus seul possible, parce que c'était extrêmement touchant pour moi de revoir Alger. J'adore l'Algérie et j'étais entièrement pénétré de l'idée que j'allais revoir mon pays, mes yeux.
Donc pas d'artistes, mais plus des fantômes.
Oui, oui, c'est
vous
ça.
Vous avez eu plusieurs vies, vous avez fait plusieurs métiers. Quel pourrait être le prochain? Espionne, actrice de cinéma ou Chief Operating Officer? Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien.
Alors celle-là, peut-être, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire.
Voilà, faisons une chose qu'on ne sait pas quoi faire. Qu'on ne sait pas ce que c'est. Avec quelle... si on devait faire un film sur votre vie, quelle actrice vivante ou morte pourrait jouer votre rôle?
Eh bien, justement, je vais vous faire répondre par Sébastien Lifshitz. J'ai dit à Sébastien, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on faisait un film? Il m'a dit, c'est impossible. Et il m'a donné la raison suivante. Il m'a dit, parce que je ne vois pas une parmi les trans qui peut ouais. jouer un rôle important comme ça. Et parmi les actrices, il me semble qu'elle forcerait, elle surjouerait le rôle et ça n'irait pas.
Merci beaucoup Marie-Pierre Pruvot. Bambi était avec nous, c'était un plaisir de vous recevoir. Et donc merci. On recommande mais tellement chaleureusement ce film de Sébastien Lifshitz dans sa version longue qui est disponible en DVD, Blu-ray, VOD et actuellement aussi sur MyCanal. C'est un des plus beaux documentaires qu'on ait vu ces derniers temps.
C'est vraiment. Merci, je transmettrai à Sébastien. C'est un cadeau de Noël.
Merci à tous les amis, je vous dis à demain pour la dernière émission de l'année.
Je vous rappelle que l'année scolaire n'est pas terminée.
Oui, c'est vrai.
Il reste encore 2 heures de cours.
Pardon, il y a les florilèges après, j'avais oublié.